Bonjour Jacques Lecacheux.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Avec vous, on va parler économie, bien sûr. Vous êtes déjà venu au micro de Radio Présence au cours des mois derniers. Et aujourd'hui, on a encore besoin de vos explications, puisque François Bayrou, notre Premier ministre, a annoncé ce mardi 15 juillet une année blanche pour 2026. Alors, ce n'est pas encore vraiment arrêté, puisqu'il faut que le projet de loi finance soit d'abord voté, accepté par le Parlement. Il n'empêche que nous avons quand même envie et besoin de savoir ce qui se cache derrière ce mot. Une année blanche, ça veut dire quoi, Jacques Lecacheux?
Eh bien, ça veut dire plusieurs choses. Du côté des impôts, notamment l'impôt sur le revenu et puis la CSG, ça veut dire que le barème de l'impôt, qui habituellement est chaque année modifié, ajusté par le Parlement pour tenir compte de l'inflation, eh bien, en 2026, ne sera pas ajusté, c'est-à-dire qu'il restera le même que celui de 2025. Ça, c'est la première chose. Et donc, ça veut dire aussi que si vos revenus en 2025 augmentent par rapport à ceux de 2024, eh bien, vous allez payer plus d'impôts en 2026 que vous n'en auriez payé si il n'y avait pas eu l'année blanche.
Ça veut dire un changement de tranche pour certains et voire peut-être
Ouais,
même payer
exactement.
des impôts pour des personnes qui jusqu'alors n'en payaient pas. Ça veut dire ça.
Exactement, puisque ça veut dire que les limites des tranches vont rester les mêmes en 2026 qu'en 2025, et donc ça veut dire que dès que vos revenus augmentent, si vous êtes proche d'une de ces limites, quand vos revenus vont augmenter, eh bien vous allez passer dans une tranche supérieure. Donc si vous n'étiez pas imposable, mais très proche du seuil d'imposition, eh bien vous risquez, si vos revenus augmentent un peu, de devenir imposable, de devoir payer un impôt sur le revenu, et même chose pour les tranches au-dessus.
Voilà, donc tous ceux qui sont un petit peu sur la brèche, ils vont nécessairement basculer dans le cadre d'une année blanche.
Exactement. C'est-à-dire, ça veut dire que sans doute quelques centaines de milliers de foyers fiscaux qui n'étaient pas imposables et qui vont devenir imposables. Et puis, évidemment, pour les tranches au-dessus, un certain nombre de foyers fiscaux qui étaient proches des limites des tranches vont se retrouver dans une tranche supérieure. Alors, ça ne veut pas dire que les impôts vont augmenter massivement, mais ils vont augmenter de quelques dizaines d'euros pour chacune de ces personnes.
Quid des prestations sociales et des pensions de
Alors,
retraite?
c'est la deuxième, le deuxième volet de l'année blanche. L'année blanche, ça veut dire aussi ne pas ajuster les prestations sociales et les retraites en fonction de l'inflation. C'est-à-dire qu'habituellement, chaque année, toutes ces prestations sont revalorisées pour tenir compte de l'inflation. Et là, l'idée, c'est que, eh bien, on va les bloquer pendant un an.
Et ça pourrait rapporter combien au gouvernement,
Alors, c'est
à l'État?
difficile à dire précisément parce que ensuite ça va dépendre de la manière dont c'est mis en œuvre, hein. Est-ce que ça va s'appliquer à toutes les prestations sans discrimination, ou bien est-ce que on va quand même préserver par exemple les petites retraites ou des choses comme ça? C'est très difficile à dire, mais ça peut rapporter une dizaine de milliards.
Entre les prestations sociales et les pensions de retraite qui sont visées, c'est directement le contribuable. De l'argent, on ne pourrait pas en trouver ailleurs. Je vous pose cette question parce qu'avant l'interview, je me suis promenée sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu les réactions des gens. Et il y a des réactions quand même assez vives, assez ironiques aussi, de personnes qui disent bah, on n'a qu'à taper dans les paradis fiscaux. Alors d'abord, peut-être qu'il faudrait rappeler ce que c'est qu'un paradis fiscal. Et puis, est-ce que vraiment, on pourrait trouver là de quoi bloquer contenir du moins ce déficit des comptes publics?
Alors, les paradis fiscaux, ce sont tous les pays dans lesquels la fiscalité sur certains revenus ou certains patrimoines ou certains placements financiers est particulièrement favorable, alors soit zéro, soit très très faible. Et donc, ce sont des pays dans lesquels, eh bien, les détenteurs de patrimoine important ou bien les entreprises qui veulent échapper à l'impôt sur les bénéfices délocalisent leurs placements ou leurs investissements financiers, hein. Et donc, par définition, c'est pas facile de les attraper, hein, évidemment, puisqu'ils sont pas, ils sont pas en France, hein. Mais il y a des techniques qui permettent d'éviter, ou en tout cas de limiter, la fuite des capitaux ou des choses de ce genre-là. Et par exemple, ce qu'on appelle les taxes qu'on appelle exit, et qui font que, par exemple, ça a déjà été appliqué en France d'ailleurs, hein, même du temps de Nicolas Sarkozy par exemple, la France va taxer les capitaux qui sortent même plusieurs années après leur sortie.
En
Hein,
tous les
donc on
cas, ça
va
c'est pas
dire.
ce qu'envisage aujourd'hui François Bayrou. En tous les cas, dans
Alors,
l'année blanche, ça n'est pas envisagé, ça.
pas du tout. Alors il a quand même évoqué une contribution des très hauts revenus qui pourrait ressembler à celle qui a été mise en œuvre en 2025, c'est-à-dire que pour les personnes dont le patrimoine est supérieur à dont le revenu, pardon, est supérieur à 250 000 euros par an, il y aurait une sorte de surtaxe de l'impôt sur le revenu. Mais c'est très symbolique en réalité, parce que d'abord la surtaxe n'est pas très forte, et puis parce que d'autre part, ça touche très peu de monde, hein, quand même, évidemment, hein, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui ont des revenus déclarés supérieurs à 250 000 euros par an, et surtout parce que les détenteurs de patrimoine, ben, s'arrangent pour avoir très peu de revenus imposables, en fait, hein.
Oui. Donc
Donc.
de toute façon, même si on tapait là, ça ne suffirait pas.
Ben, ça fait très peu, hein, dans les meilleures estimations, c'est autour de 2 milliards, hein, donc même pas.
Ça ne suffirait pas. Par contre, ça rendrait peut-être la situation plus acceptable pour le contribuable.
Alors oui, mais je vous dis, c'est quand même une goutte d'eau, parce que d'un
Oui.
côté, on fait avec l'année blanche, on va faire supporter à tous les contribuables et à tous les bénéficiaires de pensions et de minima sociaux, on va les faire contribuer à hauteur de au moins 1%, puisque l'inflation va être autour de 1%, donc ça veut dire que vous allez perdre, tout le monde va perdre à peu près 1% de pouvoir d'achat. Et par ailleurs, pour les contribuables très aisés, bah, ça représente beaucoup moins que 1% de leur revenu.
Alors, le Premier ministre propose aussi de supprimer 2 jours fériés. Alors, il a parlé du lundi de Pâques et du 8 mai. Ça, c'est une mesure qui, selon le gouvernement, permettrait de dégager un peu plus de 4 milliards d'euros. Comment ça marche? On est au-delà de la transformation du lundi de Pentecôte en jour de solidarité. Là, il s'agit d'autre chose.
Oui, bah, il s'agit là cette fois, bah, de faire travailler tout le monde 2 jours de plus, quoi. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est de dire, bah, voilà, vous allez avoir exactement le même salaire que les années précédentes, mais vous allez travailler 2 jours de plus. Et comme 2 jours, bah, c'est environ 14 heures de travail supplémentaire dans l'année. Eh bien évidemment, il va y avoir plus de production, il va y avoir des prélèvements sur les entreprises, il va y avoir, etc., etc. Et donc tout ça est censé rapporter, alors 4 milliards, ça me paraît une estimation très très optimiste, hein, parce que 2 jours fériés sur 365, vous voyez, ça fait quand même pas ça fait pas 4 milliards, hein, puisque le PIB français c'est à peu près 3 000 milliards, hein, donc vous faites le calcul, vous divisez 3 000 milliards par 365, et vous trouvez pas. Vous ne trouvez pas 2 milliards par jour, hein.
Alors, l'objectif de tout cela, on rappelle, hein, c'est quand même de contenir au moins un peu le déficit des comptes publics. Alors, ces deux mesures-là dont on vient de parler, l'année blanche et la suppression de 2 jours fériés, ça vous semble des mesures cohérentes, utopiques, on est sur la bonne voie? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, professeur d'économie?
Alors moi, je pense que ça, on va dire que c'est une obsession de tous les gouvernements depuis le début de la présidence Macron. C'est l'idée que il faut travailler plus pour pouvoir produire plus de richesses et pour pouvoir assurer le financement, eh bien, du budget de l'État et de la protection sociale. Et donc, cette idée qu'il faut, allons, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on allonge la durée du travail, hein, en supprimant les
Oui.
jours fériés. Et donc, c'est toujours cette même idée, cette idée qu'on a trouvée derrière, qui était derrière la réforme des retraites. Donc, on allonge de 2 ans
Le temps.
le temps de travail pour les personnes âgées, on allonge de 2 jours pour tout le monde, etc. Et donc, c'est quand même une régression, hein, d'une certaine façon, parce qu'en
Donc vous
fait,
parlez vraiment d'une obsession du temps de travail. Pour
bah
vous, c'est
oui,
ça
parce que en
le...
fait, ça fait quand même, ça fait maintenant plus de 100 ans que le progrès social, c'est de réduire la durée du travail en ajoutant, en réduisant donc la durée de la semaine de travail. On est passé de 50 heures à 40 heures, de 40 heures à 38, de 38 à 35. C'est aussi d'allonger les congés annuels, hein. On est passé de 3 semaines de congés payés à 4 semaines, puis à 5 semaines, et puis même certains ont davantage. Et on voit pas en quoi c'est un progrès, enfin, je veux dire, ça réduit évidemment le temps disponible pour les gens, pour les salariés notamment, pour s'occuper de leur famille, etc., etc. Et donc l'idée, c'est que on ne peut gagner en pouvoir d'achat que si on travaille plus, finalement.
Mais quelle autre option on aurait? Si c'est pas sur ce temps de travail qu'on tape, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour contenir le
Déjà,
déficit?
comme on l'a dit, on pourrait déjà mettre à contribution les personnes ayant des patrimoines importants. Il y a plusieurs études de ces dernières années ont montré que les gens ayant des patrimoines très élevés payent moins d'impôts sur le revenu que les classes moyennes, hein, donc en pourcentage de leur revenu. Donc ça, c'est déjà une mesure de justice. C'est la fameuse taxe Zucman qui avait été discutée au Sénat et repoussée par le Sénat il y a quelques semaines, prévoyait une sorte d'impôt minimum pour les détenteurs de très gros patrimoines. Bon, le Sénat l'a rejeté, le gouvernement ne veut pas en entendre parler, et donc c'est une possibilité, hein. Il y a quand même eu la semaine dernière une tribune signée par 7 prix Nobel d'économie qui plaide en faveur de cette taxe Zucman. Donc c'est pas juste une fantaisie ou une aberration, c'est quelque chose qui pourrait sérieusement rapporter entre 10 et 20 milliards, hein. C'est pas tout à fait négligeable. Et donc ça permettrait de répartir l'effort d'une manière plus équitable, hein, puisque finalement au lieu de prélever sur les classes moyennes et les salariés, etc., en les faisant travailler plus pour le même revenu et en les imposant un peu plus, eh bien on imposerait plus les ménages très aisés, c'est-à-dire ceux qui ont des très gros patrimoines.
Vous pensez, Jacques Lecacheux, que ce projet de loi finance va passer, va être accepté par le Parlement?
En l'état, ça m'étonnerait, hein, parce que il y a pratiquement aucun groupe politique à l'Assemblée qui l'a approuvé sans réserve, à part le groupe macroniste, hein, et puis le MoDem. Mais ça fait pas une majorité. Tous les autres groupes ont dit qu'en l'état, ils n'étaient pas acceptables. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de modification, il y aura une censure, vraisemblablement.
Bon, et donc il faudra trouver d'autres idées et on attendra d'autres annonces pour revenir vers vous, professeur Jacques Lecacheux. Merci beaucoup pour cet éclairage et vos explications. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.